Laura Swan, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venue à Mola et à Bordeaux, malgré le mauvais temps. Enfin, pour l'instant, ça va. Et justement, en parlant de météo, on va commencer tout de suite. Je voulais vous demander si c'était juste une impression ou si, effectivement, il fait quand même pas si beau dans Troublemaker.
Effectivement, c'était une recherche esthétique de montrer une météo particulièrement pesante et lourde. C'est pas forcément que dans une météo pesante, une histoire l'est par extension, mais j'avais envie que le lecteur se sente un peu comme June, qui est vraiment prisonnière de son quotidien et de sa maison et de son lycée, et qui ressente cette ambiance, cette atmosphère pendant sa lecture.
Oui, donc c'est un peu un reflet des personnages.
C'est ça. Et aussi, bon, on a tous des inspirations. Le propre milieu dans lequel j'ai grandi, il y avait beaucoup, beaucoup de pluie et pas mal de végétation comme June. Et c'est vrai que ça avait été une première inspiration.
D'accord.
À ce moment-là.
Vous pouvez nous dire où est-ce que vous avez grandi ?
J'ai grandi dans... Généralement, je ne dis pas exactement la ville, mais dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc oui, il y a des montagnes et beaucoup, beaucoup de végétation.
Ok. Bon, on reviendra peut-être un peu plus tard. On va peut-être commencer par parler de Troublemaker, du coup. Enfin, des deux tomes. Dès les premières pages, en fait, du premier tome, on apprend que le personnage de June est battu. Enfin, vous disiez tout à l'heure qu'elle est emprisonnée. Elle se sent quand même relativement mal dans sa vie au quotidien. Et elle est dehors tout de suite, dès la première page. C'est la nuit. Et elle va rencontrer un inconnu, quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Et il y a tout de suite ce questionnement de savoir si elle est en danger ou pas, parce que c'est quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Et puis c'est un homme, et puis elle, c'est une très jeune femme. Est-ce que c'est quelque chose... Enfin, pourquoi avoir tout de suite décrit cette scène-là?
Parce que pour moi, c'était le reflet d'un certain quotidien de la majorité des jeunes femmes. C'est-à-dire que quand on sort la nuit et qu'on rencontre un inconnu... il y a forcément un sentiment d'insécurité parce que voilà, on vit dans un monde, on sait, où malheureusement une femme n'est pas à l'abri seule dehors la nuit. Et c'était une introduction qui montrait un petit peu le danger que pouvait représenter Shane de prime abord, mais aussi le premier contact et la sorte de petite bulle en fait qui s'était formée entre eux à ce moment-là. Et d'ailleurs, Shane le sait, il lui dit à June qu'à cette heure-ci, elle ferait attention avant elle devrait faire attention avant de rencontrer les mauvaises personnes. Et June lui répond qu'elle les a peut-être déjà rencontrées en pensant que les mauvaises personnes, c'est chez elle, en fait. Et voilà, il y avait cette espèce de contraste entre le danger qu'elle fuit chez elle et le danger qu'elle peut trouver dehors. Voilà.
Et peut-être... Justement, avant de continuer, on pourrait peut-être, ensemble, en tout cas, essayer de résumer dans les grandes lignes le roman, parce que j'imagine que peut-être une grande partie d'entre vous qui l'ont lu, mais peut-être que certains ne l'ont pas lu. Donc, c'est surtout l'histoire d'une rencontre, en fait, entre deux personnages, donc June et Shane, dont on vient de parler. June, c'est une lycéenne. Elle va dans un établissement pour filles. Il n'y a pas de garçons. Et elle vit à Londres. Donc ça aussi, c'était une question que je voulais vous poser. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de planter cette histoire à Londres et pas en France, justement, puisque...
Parce que je fais partie de ces auteurs qui ont besoin de prendre un peu de recul et de m'éloigner des lieux de mon quotidien pour parler de certains sujets du quotidien, ou en général pour raconter des histoires. C'est vrai que j'ai du mal à projeter un univers quand il est trop proche de moi, finalement, géographiquement parlant. Aussi, par exemple, je vis à Paris pour les études, etc. Mais c'est pas une ville qui m'a inspirée comme a pu le faire les États-Unis. Alors, Thème, c'est la seule histoire que j'ai écrite qui se déroule à Londres. Et Londres, j'ai choisi Londres parce que je trouve que ça a cette dualité comme ville. Il y a un côté très serein. Dans Londres, c'est très étendu. C'est comme... je crois que c'est 4 fois Paris. Donc, c'est vraiment beaucoup plus étendu que Paris. Il y a des coins très tranquilles, très résidentiels, presque. Et il y a aussi l'extrême opposé, la banlieue assez que Shane décrit, qui vit dans la pauvreté, dans certains... Il y a un contraste, en fait, très fort. Et je trouvais que c'était intéressant de situer l'histoire dans une ville comme ça, qui pouvait rappeler, bon, voilà, villes qu'on connaît en France, mais tout en permettant quand même une certaine distance avec, avec la France, pour moi en tout cas.
D'accord, merci. Et donc, peut-être d'abord commencer par parler de June. Donc, je ne sais pas si je l'ai dit, mais enfin, c'est une jeune femme qui est battue, qui est aussi harcelée au lycée par, par les autres filles, qui est battue à la maison, qui ne vit plus avec sa mère, mais avec la famille que son père s'est reconstruite et dans laquelle elle ne se sent pas forcément très inclue. Et pourquoi avoir décidé d'évoquer toutes ces questions-là, à la fois le harcèlement, à la fois voilà, le fait d'être battue à la maison?
C'était pas pour en faire un personnage qui subit tous les maux du monde en même temps, c'est surtout que il y avait c'était pour montrer l'escalade en fait. June, avant d'être une personne qui se fait harceler au lycée, c'était une personne qui subissait un climat familial très compliqué, très plus que compliqué, puisqu'elle subit la violence, mais du coup très très lourd, et pourtant personne d'autre qu'elle le savait, parce que c'était tabou, c'est pas quelque chose qu'elle a un jour abordé avec qui que ce soit. Et en fait, avant d'être June la fille harcelée, c'était June la fille battue, donc qui a développé un certain caractère, une certaine discrétion qui lui vaut de s'enfoncer dans ses problèmes, puisqu'elle a, elle a pas conscience de sa valeur. Et en fait, ce que je trouvais assez intéressant avec June, c'est que il y a un point de bascule. La bascule, ça va être l'agression qu'elle subit par le copain de sa meilleure amie et qui va entraîner son harcèlement au lycée. Et du coup, le seul endroit qu'elle considérait encore comme son refuge, le lycée, finalement, ça devient un lieu de tourmente et où elle a plus aucun point d'ancrage. Et sa meilleure amie, qui était un peu sa seule distraction, devient aussi la personne qui ne la regarde plus comme une amie, mais comme une rivale et une femme qu'elle doit, enfin une jeune femme qu'elle doit détester. Et en fait, c'était surtout pour montrer que dans la vie, il y a des moments comme ça de bascule où une situation qui est déjà compliquée peut s'envenimer. Et ça expliquait aussi beaucoup sa psychologie à June, pardon, toute sa psychologie et toutes les décisions qu'elle prend ou qu'elle ne prend pas sont très clairement influencées par le milieu dans lequel elle évolue.
Oui, d'accord. Et peut-être, comme vous parlez justement de sa relation avec sa meilleure amie, qui en fait devient celle qui la harcèle, vous écrivez à un moment que personne ne parle jamais du deuil en amitié, et c'est June qui parle, je crois qu'il est plus douloureux que celui de l'amour. Est-ce que vous pourriez développer peut-être...
Je ne sais pas s'il est plus douloureux que celui de l'amour, c'est un deuil différent. Je pense que June, à ce moment-là, elle parle en tant que jeune femme adolescente qui se sent délaissée par son amie la plus proche. Et c'est un âge de construction, cet âge-là, l'adolescence, le lycée. Et généralement, l'amitié, c'est un poids. En tout cas, moi, j'ai toujours trouvé que ça avait un poids important, parce que c'est censé être les personnes qu'on choisit un peu comme... qui sont pas la famille, mais qui sont pas l'amour. Mais du coup, c'est des gens à qui on a une relation platonique et de respect mutuel. Et parfois, la déception d'une amitié qui prend fin pour des raisons qui ne sont pas, même pas vraiment justifiées, ça peut être douloureux. Enfin, ça, c'est toujours douloureux, une fin d'amitié, une rupture amicale, comme on appelle ça. Et voilà, je sais pas si... sans doute que ça a été déjà beaucoup traité dans les médias. Je n'ai pas d'exemple en tête, mais quand June elle dit qu'on n'en parle pas assez, c'est peut-être parce qu'on parle toujours du premier amour et donc de la déception, de la première déception amoureuse. Mais l'amitié, on n'en parle pas tant que ça.
Non, c'est vrai. C'est un discours qui émerge de plus en plus aujourd'hui. C'est, effectivement, on a peu ou enfin on a moins de romans autour de l'amitié qu'autour de l'amour, en fait.
C'est vrai.
Donc, moi, je trouvais ça très intéressant que bon, effectivement, c'est pas l'intrigue principale, oui. Mais
c'est vrai que on a comme l'espace pour voir toute la relation qui se développe et qui se déconstruit plutôt entre Holly et June au cours du roman. Il y a plusieurs scènes d'ailleurs qui font l'objet d'édits sur TikTok souvent, de dialogues qui sont repris entre Holly et June. Je pense parce que les jeunes filles, les adolescentes se retrouvent aussi dans ce. En Holly et en June, je pense qu'on a, pas moi forcément, mais peut-être on a tous été la Holly ou la June de quelqu'un, dans le sens où on s'est un peu détaché d'une personne sans qu'il y ait de raison, ou en tout cas à regret. Voilà.
Et à la fois Holly et June, sans peut-être trop en dire pour ceux qui n'auraient pas lu le roman, mais sont les victimes de relations quand même... d'ailleurs, c'est de la part du même garçon, en fait. Enfin, oui, presque d'agression, en fait, de sa part. Et pourquoi c'était...
Pardon, Alice.
Voilà, pourquoi c'était quelque chose dont vous vouliez parler aussi.
Du coup, je ne sais pas si je spoil, mais c'est... Dans le roman, on peut parler de viol, clairement, puisque... Pourquoi j'ai parlé de viol, en fait, dans cette histoire? Je trouvais que c'était intéressant, la thématique, le triangle, en fait, qu'il y avait entre June, la victime, Holly, la victime collatérale, mais c'est pas une victime physique de l'agression sexuelle, mais la personne qui s'est sentie trahie, finalement, par son amie. Et enfin, Hayes, le garçon qui est au milieu, le violeur. Parce qu'en fait, ça montrait différentes couches de ce que ça représente une agression sexuelle, surtout à cet âge-là. On a June qui a subi quelque chose qu'elle se blâme elle-même. Elle a tendance à blâmer, certes, le garçon et l'alcool, mais dans sa narration intérieure, parfois, elle dit que ça sert à rien d'en parler parce que les gens, de toute façon, tireront des conclusions sur le fait qu'elle aurait pas dû boire. Et la construction sociale, à ce niveau-là, elle est tellement intériorisée que elle a du mal à... Voilà, même mettre des mots sur ce qu'elle a vécu pendant... Je crois que c'est que au deuxième tome que vraiment il y a une espèce de confrontation de la scène. Sinon, c'est très vaseux, en fait, dans l'écriture. Elle dit qu'elle aurait aimé... qu'elle avait peut-être rêvé... Enfin, je me rappelle plus exactement, mais c'est vrai qu'il y a des moments où c'est assez flou, en fait, même pour June. Ensuite, on a donc la victime collatérale, Holly, pardon, qui, elle, représente un petit peu... Malgré elle, elle fait le lien entre Hayes et June, et au lieu de croire sa meilleure amie, elle croit le garçon qu'elle aime. Et je dirais pas que c'est la misogynie intériorisée, peut-être. Il y a une part de ça, mais il y a une part aussi dans sa propre relation. Elle est tellement dans le déni de savoir que son copain aurait pu faire ça à sa meilleure amie qu'elle préfère croire la version qui a été tissée très soigneusement par Hayes, justement son petit ami. Et enfin, Hayes, lui, qui, je trouve qu'il y a une psychologie assez intéressante, bien qu'elle ne justifie ou n'explique absolument pas son geste, mais c'est que lui, il aime bien dire à tout le monde que June s'est jetée sur lui, que June avait déjà un crush, on va dire, sur lui. Et dans le tome 2, il en parle avec elle. En fait, il lui reproche, mais... Enfin, tu fais semblant maintenant, mais j'ai bien vu comme tu me regardais avant. Et en fait, je trouve que ça, c'est intéressant parce que ça montre les espèces de l'implicite et tout ce que les garçons veulent comprendre et qu'ils ne devraient pas prendre, en fait. Et surtout, c'est de force et il n'y a même pas aucun doute sur le fait que ce soit un viol. Mais même lui, il a dans son propre psychologie une incompréhension du déroulé et il en veut beaucoup à June parce que c'est... Pour lui, en refusant le rapport, finalement, elle a créé une situation qu'il avait imaginée différemment. Et donc, c'est assez tridimensionnel, cette thématique du viol dans le roman. Et je trouvais que c'était important d'en parler parce que voilà, il y a tellement de jeunes filles, de jeunes femmes qui me lisent et qui, en général, se construisent. À cet âge-là et qui ont peut-être vécu des expériences ou vu des expériences similaires. On a déjà tous entendu dans un lycée ou même dans un collège « Oui, cette fille, elle a fait... elle était avec un tel quelque part, mais on sait très peu réellement de ce qui s'est passé. » Puis après, quelques années plus tard, on sait vraiment ce qui s'est passé. Et je trouve que c'est... Voilà, c'est très actuel et c'est malheureux, mais c'est comme ça, voilà.
Oui, donc c'est quelque chose... C'est parce que c'est aussi un peu le reflet de la société que vous en parlez, comme le harcèlement, dont on parle quand même aussi de plus en plus, et comme peut-être aussi le fait que June soit battue. Pourquoi là aussi, c'était quelque chose que... Est-ce qu'il fallait... Enfin, comment dire? Est-ce que vous vouliez présenter le personnage de June comme quelqu'un qui, voilà, finalement, n'a plus rien à attendre presque du monde, ou est-ce qu'il y avait vraiment cette thématique là qui vous était chère, en fait?
À la toute base, j'ai imaginé TM. TM, il y a déjà quelques années, donc j'étais plus jeune aussi, oui. dans ma perception des choses et dans la construction de l'intrigue au tout début. Mais j'avais imaginé June de cette façon-là et surtout, j'avais imaginé que, encore une fois, c'est sans spoil, mais ça, c'est des, dans l'histoire, que la violence serait incarnée par une femme au lieu d'un homme parce que c'était plus tabou et ça avait quelque chose de plus silencieux et de plus discret. Parce que souvent, en fait, quand on parle de violence et de maltraitance, on a tendance à penser à l'homme directement parce que statistiquement, c'est quand même plus fréquent qu'un homme soit violent avec voilà, ses enfants ou sa femme. Mais je trouvais que cette approche-là, elle était, je l'avais rarement vue. Et je trouvais qu'elle était aussi intéressante parce que, avec la violence sous le spectre féminin, il y a aussi une sorte de honte que June, qui habite June, c'est que, on l'excuse, comment dire, quand c'est un homme qui frappe, on dit mais elle avait aucun choix que de subir, alors que quand c'est une femme qui s'en prend à une autre femme, même plus jeune qu'elle, il y a ce côté un petit peu comment ça se fait que t'aies pu laisser faire ça alors que. T'étais pas en position de force, mais disons que c'était moins violent. Et encore, c'est pas du tout ce que j'entends par là, mais symboliquement, c'était plus. Si vous voyez ce que je veux dire, mais du coup, non, je trouvais que c'était intéressant pour expliquer tout le personnage de June, toutes ses décisions ensuite et tout son caractère. En fait, il a été forgé dès le départ par sa belle-mère, en fait.
Et peut-être pour en venir à Shane. Qui est quand même assez torturé aussi. Bah, il parle avec un fantôme, il enchaîne des relations sans lendemain, enfin en tout cas qui voilà. Et puis il est assez détestable aussi, enfin en tout cas au début. comment vous vouliez décrire ce personnage et comment aussi vous vouliez peut-être le faire évoluer?
Shane, il a été écrit avec. Une envie, c'est vrai que à l'époque, comme je disais, j'étais plus jeune, j'avais juste en tête l'idée d'un personnage un petit peu qui va à contre-courant et qui, comme tous les personnages masculins qui ont du charisme, qui a un certain, comment dire, un certain désintérêt pour sa vie, même celle des autres finalement, parce qu'il vit un peu au jour le jour et sans vraiment penser aux conséquences de ses actes, et en fait. Shane lui-même, il a une histoire assez particulière parce qu'il est syndrome de, enfin, il est victime de, comment dire en français, PTSD, syndrome post-traumatique. Et c'est pour ça qu'il voit un fantôme entre guillemets. En fait, c'est une liberté aussi créative, mais il voit en fait une personne de son passé qui l'a vraiment beaucoup marqué et envers laquelle il ressent de la culpabilité. Et c'est pour ça qu'elle le hante finalement. Et je voulais créer un contraste, en fait, entre quelqu'un qui a été beaucoup blessé par la vie, comme June, et qui a décidé d'être résiliente et douce. Ça n'arrive pas à tout le monde, mais une fois, j'ai lu une phrase, je ne sais plus de qui elle est, mais c'était « Il t'en a fallu beaucoup de violence dans cette vie pour te rendre aussi douce à l'égard du monde, en gros. » Parce que tu sais ce que ça fait d'avoir mal, et donc tu essaies de traiter les gens avec... beaucoup de grâce et voilà de bonté finalement. Et à l'inverse, Shane, qui a été blessé vraiment par la vie, par son père, sa situation familiale, il a été complètement il a pris le chemin inverse de June, c'est-à-dire qu'une personne blessée peut aussi devenir blessante pour essayer de se venger du monde finalement. Et il y a une phrase qui résume bien dans TM cet aspect là c'est certaines personnes sont plongées dans le noir et n'hésiteraient pas à vous brûler pour apercevoir de la lumière. Et c'est vraiment la dynamique entre Shane et June au début, avant qu'ils commencent à se connaître. Voilà.
Et donc, toute cette relation aussi, je voulais peut-être vous demander, est-ce que, effectivement, vous définissez ce que vous écrivez comme de la dark romance?
C'est plutôt de la romance psychologique. Moi, je l'ai définie
psychologique. Et en fait, parce que toute cette relation entre les deux est quand même un peu particulière. Lui d'ailleurs étant en position quelque part de domination parce que en fait il devient professeur dans le lycée où elle est élève et puis après ils ont cette relation secrète mais en même temps où lui est quand même un tout petit peu plus âgé qu'elle même si on a quand même l'impression que c'est un jeune homme Pourquoi aussi, est-ce que c'est un ressort de ce genre en fait, littéraire, mm-hmm. ou pourquoi avoir voulu travailler là-dessus?
Alors, c'est vrai que déjà, je comprends que vous ayez dit Dark Romance parce que certains vont qualifier TM de Dark Romance, certains libraires ou certains même articles, même certains lecteurs. Pour avoir vu ce que c'est réellement la Dark Romance, je ne qualifierais pas TM de Dark Romance. Je dirais que c'est ambigu. C'est une romance psychologique qui, peut aller dans des questions morales aussi. Est-ce que c'est complètement moral comme relation? Moi, j'ai toujours joué très clairement sur le fait. Enfin, j'ai toujours clairement écrit Shane d'une façon à... montrer qu'il était absolument pas enseignant en fait, c'est que lui à la base, désolé de dire ça, mais c'est une fraude en fait. C'est pas du tout quelqu'un qui a un jour étudié pour atteindre ce poste là. Il a photoshopé son diplôme de fin d'études pour avoir un point d'ancrage quelque part et pour pouvoir se faire de l'argent rapidement. Et du coup, toute sa narration, son psyché, c'est pas du tout celui de quelqu'un qui aurait vraiment à la base appris. Avec une ambition dans la vie de devenir enseignant, d'être en contact d'élèves. En fait, c'est vraiment juste, pour moi, là où l'ambiguïté de la relation, elle est vraiment, c'est plus que Shane est plus âgé qu'elle de 6 ans. Et donc, il y a forcément un ascendant dans la relation à ce niveau-là, certes par le statut aussi, mm-hmm. mais c'est tellement, en fait, même pour lui, c'est tellement si peu sérieux, et ça se voit dans la narration au moment où il entre en poste, c'est comme une blague, en fait. Et même, on a un peu du mal à le prendre au sérieux, le fait que lui soit enseignant, alors que c'est aussi quelqu'un qui commet des cambriolages, qui n'a pas du tout d'activité, d'activité professionnelle fixe, en fait. Donc voilà, après, bien sûr, c'est sans doute un des ressorts de la romance en général, que ce soit dark romance ou new romance, comme on l'appelle. Il y a toujours, très souvent en tout cas, un rapport dans les tropes, que ce soit... Les tropes patron-employés, c'est des choses un peu caricaturales, comme prof-élève, hein, mais je sais pas, c'est en même temps, c'est le reflet de ce que les jeunes femmes et ce que les médias nous renvoient, en fait, depuis la nuit des temps, finalement. Ça, c'est pas étonnant pour moi que ce soit réutilisé à des fins de romance, puisque dans tous les cas, c'est les femmes qui écrivent ces romances-là, celles qui tiennent le stylo non, mais l'ordinateur en tout cas, et qui en font ce qu'elles veulent finalement de ces intrigues-là.
Donc en fait, c'est étant vous-même une femme, il mm-hmm. y a une forme d'émancipation aussi.
Je dirais que oui, c'est vrai que quand je suis encore relativement jeune, j'ai 24 ans, mais c'est vrai que j'ai commencé encore plus jeune. Et quand on commence aussi jeune et qu'on a un tel succès aussi jeune, finalement, il y a aussi des maladresses ou des choses que moi j'aurais écrites différemment aujourd'hui. Pour autant, je suis quand même satisfaite. Les messages que j'ai écrits dans la duologie, mais c'est vrai que je sais pas si je parlerai d'émancipation. Je pense que c'est pas quelque chose que j'ai conscientisé à ce moment-là. C'est juste que j'avais envie de raconter une histoire en utilisant des personnages qui avaient des choses dans lesquelles on pouvait se retrouver, qui certes avaient certaines situations qui étaient aussi un peu des constructions. Voilà, des choses qu'on apprend finalement. Mais je pense qu'en général, si on parle plus largement des genres, de la romance, etc., oui, on peut parler d'émancipation féminine.
Et puisque c'est quand même aussi un point assez important dans le roman, enfin, toute cette attirance entre les deux personnages qui monte, et que vous écrivez quand même bien, mm-hmm. Je voulais quand même qu'on parle un peu de sexualité, puis de sensualité mm-hmm. aussi, parce que c'est très sensuel quand on... chaque contact peau contre peau, enfin, vous l'écrivez, il y a quelque chose qui se joue là. Pour parler proprement de la scène où tous les deux font l'amour, mm-hmm. Est-ce que vous y avez accordé du temps? Comment est-ce que vous avez essayé de l'imaginer, sachant aussi que comme les chapitres alternent entre la voix de Shane et de June, on a ce genre de scène mm-hmm. qui est à la fois racontée du point de vue de son point de vue à elle et ensuite de son point de vue à lui. C'était important d'avoir aussi ces deux regards.
Sans doute, oui, à ce moment-là, quand je l'ai écrit, c'était important pour qu'on comprenne aussi que le regard de Shane n'était pas malsain sur June. Après, c'est vrai que les scènes de sexe, finalement, c'est pas des scènes qui c'est pas les, il y en a pas énormément, c'est pas du tout le cœur de l'intrigue. Il y en a quand même, et c'est un choix finalement. C'est pas forcément quelque chose que j'apprécie énormément. C'est pour ça que je trouve que faut que la scène ait son importance et qu'elle ait le, qu'elle veuille dire quelque chose dans l'intrigue, parce que sinon ça peut vite être gratuit. Et c'est pas du tout ce que je cherche à faire quand j'écris, en tout cas, surtout pour ce type d'histoire. Je trouve que ça n'apporte pas grand chose en fait. Ça en dit plus long. Enfin, on peut en dire autrement sur le personnage que par les scènes charnelles. Mais c'est vrai que du coup, TM, c'est mon premier roman. C'est un roman qui a été publié dans une maison d'édition de romance. Généralement, les lecteurs de romance attendent certains contacts physiques. Puisque c'est un attendu aussi, pas automatique non plus, mais pour beaucoup, je pense que j'ai voulu en faire quelque chose de censé à ce moment-là, mais si je dois être totalement honnête, c'est pas du tout ce que je préfère faire quand j'écris, non.
Ouais.
D'accord. Je sais qu'il y a des romans qui comportent plus, qui se concentrent plus là-dessus, et d'ailleurs qui finalement aussi ont une portée, un message plus fort à ce niveau-là. Qu'on parlait d'émancipation sexuelle, c'est plus dans ce sens-là aussi. Je pense que les femmes écrivent peut-être un peu plus dans certains romans, mais voilà. En tout cas, c'était intéressant d'avoir les deux voix des deux personnages. Ouais.
D'accord, merci. Peut-être passer peut-être. Enfin, j'avais quelques questions aussi sur comment vous écrivez de manière générale au-delà de ces deux romans, enfin cette duologie-là. Est-ce que vous avez des rituels, par exemple? Est-ce que vous écrivez sur papier ou est-ce que vous écrivez sur votre téléphone dans le bus? Est-ce qu'il faut que vous soyez seule ou pas?
Ça a beaucoup évolué. Je sais que quand j'étais plus jeune, du coup, quand j'étais adolescente, j'écrivais un petit peu n'importe où, même sur mon téléphone. Ça m'arrivait de pas être dérangée, enfin, de pas me sentir particulièrement dérangée par les autres. Et du coup, je pouvais écrire. Mais c'est vrai qu'avec les années, non, pas du tout. Il faut vraiment que je sois soit dans un endroit très calme où je sens que personne ne regarde mon écran, parce que je trouve que c'est, même si personne regarde en réalité, il y a quelque chose d'intrusif dans le fait d'écrire en public. Du coup, j'ai besoin d'écrire dans le calme et quand le monde est éteint, finalement. Soit quand je suis seule chez moi, soit quand tout le monde dort, voilà. Après, au niveau des rituels d'écriture, je dirais que ce que je fais, c'est que souvent, pendant des années et des années, je remplis des notes sur mon téléphone ou sur mon ordinateur sur un projet. Et en fait, j'y reviens peut-être 5 ans après. Parfois, oui, même plus, c'est juste qu'entre-temps, j'aurais écrit d'autres choses, mais j'aurais nourri cette histoire mentalement, et je saurais de quelle scène j'ai attribué à tel personnage, telle réplique. Parfois, pourtant, c'est fou parce qu'il n'y a pas encore de fil conducteur, mais il y a des personnages, on va dire, qui vivent déjà un peu dans ma tête. Et du coup, voilà, c'est comme ça que je procède en général. Mais je trouve aussi, et c'est intéressant pour moi avec TM, je voulais un peu saisir l'instant, l'adolescence, quand j'étais encore pas très éloignée de June, parce que l'adolescence, c'est quand même un sentiment un petit peu universel, et c'est un sentiment qui reste toujours en nous, mais est-ce qu'on peut le saisir exactement de la même manière qu'au moment où on était dedans? Et oui, je tenais à le faire à l'instant T, on va dire, un petit peu après, mais quand même avec un petit peu de recul. Voilà, mais sinon, oui, je peux rester plusieurs années, ça peut me desservir parfois.
Et du coup, justement, comme vous devenez plus âgé, est-ce que vous, enfin, je ne sais pas ce que vous pouvez nous dire ou pas, mais est-ce que vous voulez continuer à écrire sur l'adolescence, ou est-ce que vous allez décrire des personnages qui vieillissent en même temps que vous?
Oui, non, c'est vrai que pour le moment, je n'ai pas prévu d'écrire une prochaine histoire qui se déroule durant l'adolescence, mais plutôt à l'âge adulte, la transition, comment on appelle ça, le jeune adulte, l'âge du jeune adulte, parce que effectivement aussi je grandis, je me retrouve un peu moins dans ces thématiques là liées au lycée. Peut-être que dans 15 ans je reviendrai avec une histoire au lycée, parce que on peut toujours traiter les choses différemment et avec un recul plus important encore sur certaines thématiques, mais au moment où on parle, c'est pas quelque chose que j'ai prévu de faire l'adolescence tout de suite. Et effectivement, vu que je grandis, c'est un âge particulier en fait d'être édité aussi jeune, parce que moi-même, je découvre mon style d'écriture, il se renouvelle en fait. Plus je grandis, plus je lis, plus je grandis tout simplement. Et donc, c'est vrai que j'aimerais toujours parler des relations humaines, des relations hommes-femmes, des relations humaines en général, mais peut-être pas forcément sous le spectre de la romance uniquement, mais toujours rester dans les drames, dans les thrillers, dans la psychologie, voilà, des personnages qui me tient vraiment à cœur.
Et vous avez des choses qui vous inspirent, des romans, des films, des...
Je dirais, alors j'ai pas d'inspiration directe, mais après on a tous un genre de jardin intérieur,
oui,
de construction de choses qu'on aime forcément. Moi, depuis que je suis très jeune, étonnamment, j'aime bien les films tristes, les livres tristes, les choses un peu lourdes, quoi. Et c'est vrai que ça a complètement constitué le genre de choses que j'aime créer, parce que c'est généralement, on aime se retrouver aussi dans ce qu'on écrit, dans ce qu'on consomme. Comme livre classique que vraiment je recommanderais toujours, et qui étonne parfois les gens, c'est Thérèse Raquin de Zola, que j'adore, parce que je trouve qu'il saisit parfaitement le sentiment de culpabilité et le désir en même temps qui engouffre les gens et qui les pousse à faire je sais pas si je spoil, mais qui les pousse à commettre le pire en tout cas, et qui les ronge finalement. Et c'est tellement décrit avec une pesanteur dans l'écriture et dans tout. Je trouve que c'est vraiment... J'adore. En tout cas, c'est un de mes livres préférés classiques. Sinon, au niveau de la littérature contemporaine, j'aime beaucoup les auteurs américains. C'est vrai que ça a toujours été des auteurs vers lesquels je me porte naturellement. J'aime bien la façon de narrer. Peut-être un peu plus nonchalante parfois que certains styles... que certains auteurs classiques français, dont bien sûr je ne mettrai jamais, enfin, je vais jamais, c'est très bien écrit, mais je veux dire, c'est plus mes préférences personnelles. Voilà, la littérature américaine.
Merci. Je pense qu'on est arrivé plus ou moins à la fin du temps qui nous est imparti. Donc, merci encore d'être venu et d'avoir répondu à toutes mes questions.
Merci à vous et merci à tout le monde.